présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. En France, il est de mauvais goût, c'est de mettre à jour sa fortune. Alors il est de bon ton. Et par esprit d'égalité, c'est de la mettre et de se mettre dans une banque de pauvres. Cela démontre que l'on ne dénigre pas les pauvres. Le concierge lui dit, oui, d'égalité. Mais nous en Amérique, les pauvres, nous en méfions. On n'a pas qu'ils fassent des dégradations. La force, ce sont des pauvres, quoi. François lui dit, oui, mais on ne peut pas leur en vouloir. Bien sûr, mais là, à les avoir chez soi, vous comprenez, n'est-ce pas? Nous comprenons. François lui dit, oui, les chauffeurs de taxi et l'autre groom, qui sont eux aussi des pauvres, sont d'accord avec eux. On ne fréquente pas un pauvre, même lorsque l'on est pauvre, c'est la vie. Le concierge fait, bien, vous restez combien de temps chez nous? Une semaine, peut-être deux, bien. Je vais vous faire mener à votre chambre. Il appuie sur une sonnette pour faire venir un groom. C'est un jeune garçon dans les 15 ans, habillé en rouge. Le concierge lui dit, la suite 652. Le groom prend les bagages. François paye le chauffeur de taxi et suit le groom pour aller prendre l'ascenseur jusqu'au sixième étage. Puis, arrivé au sixième étage, ils sortent de l'ascenseur. Ils suivent un couloir de marbre gris. Puis, le groom ouvre une porte. Entrez. Il le fait rentrer. Grand salon Louis XV avec baie vitrée qui donne sur une terrasse. Grande chambre avec lit à deux places. Meublé Louis XV aussi, crème. Bureau, salle de bain, blanche et or. Une heure plus tard, une fois que la femme de chambre a rangé ses affaires, les serviettes de bain, etc., il se retrouve seul, dans ce grand appartement. Beau, lisse, sans vraie personnalité. Cette lumière grise, lumineuse, qui entre dans les pièces. Il décide d'aller sur la terrasse. Il voit un grand vide entouré de gratte-ciel. Il décide d'aller dans sa chambre. Et de s'allonger, tout habillé, sur son lit. Tout d'un coup, il ne sait pas si c'est la fatigue, le changement. Il a envie de mourir, oui, une grande envie de mourir. Il n'a plus envie de rien faire. Il se dit que s'il mourait maintenant, ça ne changerait pas grand-chose. Alors pourquoi pas? Pourquoi continuer? Il pourrait tout arrêter. Ce serait peut-être bien, plus de soucis, rien. L'avant, l'avenir, ça fait peur. Dans 10 ans, je serai comment? Vieux, laid, seul, riche ou pauvre? Quelle différence entre les riches et les pauvres? Le pauvre lutte pour vivre et le riche lutte pour ses biens. S'il pouvait rester et ne rien faire, lui, le pauvre mort, et le riche devient pauvre. Alors que faire? C'est moi et moi seul qui décide de cette lutte ou non. Si j'arrête, je ne bouge plus et j'attends. La chose la plus grave qui puisse m'arriver, c'est la mort. La vie, les autres, n'ont de l'importance pour moi que si je le veux, je peux nier ce qu'il représente. Et c'est grâce à moi, au regard que j'ai sur le eux, qu'ils disent qu'ils ont de l'importance. Et c'est grâce aux autres que moi j'ai de l'importance. Sans les autres, l'un est rien. C'est certains qui sont seuls. Peut-être. Quelques-uns s'imaginent un regard d'une divinité, de Dieu. On centralise l'importance que l'on croit avoir, ou ce que l'on croit être seulement, par le regard des autres. On n'est que ce que l'on croit être que par l'autre. Et puis, le pouvoir qu'a l'autre, le pouvoir de faire de l'autre quelqu'un. Mais l'on peut se dire que ça ne sert à rien d'être reconnu, d'avoir un pouvoir sur l'autre, que l'on peut tout aussi bien s'en passer. N'avoir plus besoin du regard de l'autre ou de Dieu, se satisfaire soi-même, de n'avoir besoin de personne, c'est-à-dire de pouvoir sur l'autre ou de servitude. Car chacun a son contraire, et son contraire équivaut au même but. Voilà à quoi pense François. Mais lui, pour vivre, a besoin de plaire. Sa présence sur les autres, sa puissance sur les autres, c'est de les séduire. Penser à ne plus rechercher l'autre et à se laisser flotter dans la vie. Puisqu'il se dit qu'il n'a goût à rien, que ça ne sert à rien de lutter. Oui, ça ne sert à rien de lutter, de plus rechercher à plaire, de plus rechercher l'autre, flotter, flotter jusqu'à la mort. Maintenant, il fait nuit dans la chambre. François, épuisé, s'endort. Se réveille, se sent faible, décide de dîner. Même lorsque la vie n'a plus de saveur et que l'on veut mourir, on a envie, c'est de faire un bon repas. C'est ce que l'on désire de plus, peut-être après, parce que c'est un plaisir solitaire et qui risque de nuire à personne. Et puis, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Faire l'amour avec personne, il faut en trouver une, et puis elle risque de vous ennuyer, de vous changer la décision que vous aviez prévue. Et puis, ce que vous risquez peut-être, c'est d'attendre quelque chose d'elle. Tandis qu'un repas, il vous apporte que ce qu'il vous apporte. Un repas et c'est tout. Il va au salon. Éclair. Il prend son téléphone. C'est pour avoir un dîner, s'il vous plaît. Chambre 652. Bien, monsieur, je vais vous passer le maître d'hôtel. Souhaitez-vous ces dîners dans votre chambre? Oui, merci. Le maître d'hôtel et le cellier est venu. Il a fait sa commande et une demi-heure plus tard, il a pris son repas. Après avoir mangé, de bon appétit, il décide c'est de sortir un peu. Peut-être que ça me donnera le goût de vivre. Dehors, l'air est étouffant. C'est bien humide. Pénible pour marcher. Les rues sont plus éclairées qu'en France. Il y a plus de monde. Mais le délabrement est le même. Magasins fermés. Chaussées défoncées. Il y a plus de voitures. Beaucoup de taxis aussi circulent. Des groupes de gens parlent violemment. Les enfants courent dans tous les sens. François essaye de se détendre en regardant tout ça. Il se dit que lui aussi, à l'âge de ses jeux, et il pourrait être comme eux. D'ailleurs, il est comme eux. Lui aussi cherche à survivre.
Vas-y, tire.
Il se dit, oui, toujours sur
dans la mer comme ça. Ces flics qui peuvent nous descendre avec leurs flingues dans tous les droits. Arrête.
Pourquoi ça fait malheureux? Et pourquoi lui se sent-il malheureux? Il a eu de la chance qu'il m'aime. Lui aussi a failli perdre la vie et même été enfant. Et dans ses pensées, en marchant, il s'est cogné contre un homme dans les 30 ans, en jean, casquette rouge et basket. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais pousse-toi, espèce de con. Excuse-moi. Oui, c'est ça. Et laisse François étourdi, qui se trouve face aux marches qui descendent au quai du métro. Instinctivement, il y descend. Arrivé en bas, une odeur d'humidité, de cave, c'est sale, c'est un côté délabré. Les murs sont peints en jaune, plein de graffitis et de tags. Les chaises sont cassées, plein de détritus à terre. Quelques lampes au plafond donnent une lumière jaune, pisseuse. Aux deux extrémités du quai, il y a un trou. Le quai est vide. François se sent là. Il n'a pas le courage de remonter à la surface. Non. Il n'a pas le courage de remonter à la surface. Et puis, ce décor lui rappelle son enfance, lorsqu'il vivait dans le métro. Ça lui fait mal. Il se revoit. Je revois, petit, maigre, sans défense, au milieu de ce décor et de gens bizarres. Est arrivé. Il semble délabré. Tag dessus, lumière jaune à l'intérieur, pas de passagers. Ce métro vide sur cette station. Vide dans ce décor de fin du monde, à un côté bizarre. Le métro reste arrêté. Les portes ouvertes. François a l'impression qu'il est venu le chercher. Comme la barque du passeur qui mène les morts de l'autre côté en enfer. Il reste un moment. Se dit que ce doit être son heure, que c'est sa destinée. Alors, il entre dans le wagon vide. La porte s'est refermée. Il reste debout au milieu du wagon. Le métro se met en route. Bruit assourdissant, il roule dans le noir. François ne pense à rien. Ce métro vide, qui est conduit par qui ? Il va s'arrêter à une station. Le mener où ? Les portes se sont ouvertes. Instinctivement, François sort du wagon. Il reste devant. Il attend. Les portes se referment, le métro s'en va. Il est toujours vide. Le quai est vide. François est là. Par le moindre bruit. Il se sent seul et vulnérable. Ici, il n'a personne. Que va-t-il devenir ? Lorsqu'il était jeune, enfant, il est encore jeune. Être seul, ça ne l'ennuyait pas. Peut-être parce qu'il n'avait pas le cafard, le confort, il n'avait personne pour s'occuper de lui. Pourquoi cette tristesse ? Il fait un pas. Une main se pose à son épaule et le retient en arrière. Il se retourne et voit une jeune fille, ou plutôt une femme. Elle est grande, mince, blonde. Un joli visage, peut-être un peu triste, avec de grands yeux bleus, porte un petit tailleur noir et lui dit « Vous n'êtes pas bien ?» Il ne comprend pas. Elle lui dit, il ne faut pas rester ici. Vous allez tomber. Il regarde et voit qu'il a un pied dans le vide. Il a failli tomber sur la voie, mais ne le savait pas. Elle lui fait, venez, je vais en prendre un verre. Ça vous fera du bien. Il comprend qu'il a peut-être failli mourir. Elle lui sourit et se dit, elle m'a sauvé la vie. Il se retourne et lui dit, merci. Venez. Il la suit. Et ils sortent de la station de métro. Une avenue, laquelle? La lumière de la ville lui montre son visage. Il est tout pâle, comme une personne qui a eu une grande émotion. Il se dit qu'elle a dû avoir peur. Elle lui dit, entrons dans ce bar. C'est un bar assez grand, qui a une façade qui est verte et rose. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.